Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI à 14h temps universel, 16h ici à Paris. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
Les opérations entre Israël et l'Iran au troisième jour de confrontation. Les frappes israéliennes contre son ennemi ont fait au moins 128 morts. C'est le dernier bilan. Le siège de la police dans la capitale iranienne vient d'être visé. Téhéran poursuit sa riposte contre l'État hébreu. Les missiles iraniens ont tué 13 personnes au moins depuis vendredi. À la une aussi, la visite d'Emmanuel Macron au Groenland. Aujourd'hui, le président français est venu exprimer la solidarité de la France et de l'Union européenne à ce territoire autonome danois, convoité par le président Trump. La chasse à l'homme aux États-Unis, ça continue pour tenter de retrouver le meurtrier d'une élue démocrate du Minnesota. Et puis, constat d'échec au congrès du Parti Socialiste en France, toujours fracturé sur la ligne à tenir vis-à-vis du Parti de la France Insoumise. Des messages d'alerte maximale envoyés cet après-midi aux habitants en Israël, appelés à se confiner. Alors là, ça y est, le niveau a baissé et la population peut sortir des abris. L'armée israélienne dit avoir détecté de nouveaux tirs de missiles en provenance d'Iran. Après des salves la nuit dernière, notamment près de Tel Aviv, le dernier bilan est donc de 13 tués, 200 blessés en Israël depuis vendredi. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme que l'Iran paiera un prix très lourd. L'Iran, visé par de nouvelles frappes israéliennes sur des sites militaires, des sites liés au nucléaire ou encore des dépôts de carburant. Plusieurs explosions ont retenti ce dimanche à Téhéran. Les autorités ont annoncé que les stations de métro, les écoles et les mosquées serviront d'abri. Les médias iraniens font état désormais d'au moins 128 tués entre vendredi et samedi. Parmi les réactions diplomatiques du jour, en Allemagne, le chancelier Merz affirme que l'Iran ne doit jamais disposer d'armes nucléaires. Paris, par la voix du chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, affirme que la France n'a pas, à ce stade, mobilisé ses moyens militaires pour défendre Israël. Mais le président Emmanuel Macron a dit que Paris pourrait le faire en cas de besoin. Et cela passerait alors par l'intermédiaire des chasseurs français basés en Jordanie, explique le général Jean-Claude Paloméros, ancien chef de l'état-major de l'armée de l'air française.
Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec nos avions de combat, c'est détruire des missiles qui volent pas très vite, ce qu'on appelle les missiles de croisière, mais qui volent très bas. Par contre, on n'a pas l'aptitude aujourd'hui à détruire des missiles balistiques à partir d'avions de combat. Mais l'Iran va s'épuiser à cette guerre, donc il utilisera tous les moyens qui sont à sa disposition. Et dans ce cadre-là, il est possible que l'aviation de combat déployée en Jordanie puisse intervenir de manière utile. On pourrait intercepter des drones. Cette nuit, ils ont fait un mix de drones et de missiles balistiques. L'idée d'avoir des alliés qui interviennent comme ça dans différents champs, ça permet à Israël aussi d'avoir une approche plus sélective et de ménager ses moyens, si vous voulez, parce que c'est une guerre qui se situe aussi dans la durée.
Le général Jean-Claude Paloméros, ancien chef de l'état-major de l'armée de l'air français, joint par Sébastien Farcy. Une confrontation Israël-Iran qui affecte tous les pays de la région et notamment le Liban. Les autorités libanaises ont fermé l'espace aérien. Tous les vols de ou vers l'aéroport international de Beyrouth ont été reprogrammés. Et les Libanais sont très inquiets de voir leur pays entraîné dans ce nouveau conflit au Moyen-Orient, Paul Ralifé.
L'inquiétude des Libanais vient du fait que leur pays a de tout temps été une caisse de résonance pour tous les conflits du Moyen-Orient. Ce traumatisme est à l'origine des nombreuses mises en garde de rester à l'égard de la guerre entre l'Iran et Israël, entendue ces dernières 48 heures. Des avertissements adressés surtout au Hezbollah, qualifié par les uns de proxy ou d'alliés de l'Iran et par les autres de créatures iraniennes. Même s'il est directement affecté par ce conflit et que son avenir pourrait dépendre de l'issue de cette guerre, le Hezbollah n'a ni l'intention ni les moyens d'y participer. Très affaibli par le dernier conflit avec Israël, le parti chiite n'a pas fini de panser ses plaies. Il est actuellement en période de restructuration et de réorganisation et a lancé de vastes chantiers de réflexion interne pour redéfinir sa stratégie. Sous forte pression pour remettre l'intégralité de son arsenal, tous ses faits et gestes sont scrutés par les autorités, la classe politique et la population. Une petite phrase lancée par l'un de ses députés confirme cette analyse. L'Iran sait comment protéger son peuple et n'a jamais demandé à quiconque de se battre pour lui, a souligné Hassan Fadlallah. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Les derniers développements de cette confrontation entre Israël et l'Iran, c'est à suivre en temps réel sur RFI.fr. C'est un message de solidarité européenne que vient porter Emmanuel Macron au Groenland. Le président français en visite en ce moment dans ce territoire autonome du Danemark, menacé d'annexion par Donald Trump, convoité par le président américain. Ce n'est pas ce qui se fait entre alliés, a dit le président français à Nouk. Emmanuel Macron qui se rendra dans la foulée au sommet du G7 au Canada. Aux États-Unis, dans un contexte politique très crispé entre le déploiement de soldats à Los Angeles, la parade militaire d'hier à Washington et des rassemblements anti-Trump dans l'ensemble du pays, la traque continue pour tenter de retrouver le meurtrier d'une élue démocrate du Minnesota tuée à son domicile avec son mari. Un autre élu du même État et son épouse ont été blessés. Heike Schmidt.
Dans la banlieue de Minneapolis, des centaines de policiers sont à la recherche du suspect numéro 1, Vance Bolter. Cet homme armé dangereux a fui à pied dans sa voiture. Les agents ont trouvé des tracts pour le No King's Day, les manifestations anti-Trump, mais aussi une liste avec les noms de nombreux élus, dont ceux de Melissa Hortman et de John Hoffman. Ces deux élus démocrates ont été attaqués à leur domicile. D'abord, vers 2h du matin, le sénateur John Hoffman et sa femme. Le couple a été visé par de nombreux tirs, mais devrait survivre à cette tentative d'assassinat. Lorsque la police s'est ensuite rendu au domicile de l'autre élu, Melissa Hortman, les agents sont tombés sur l'assaillant qui a ouvert le feu sur eux avant de prendre la fuite. Melissa Hortman et son mari Mark, parents de deux enfants, ont succombé à leurs blessures. Donald Trump a rapidement dénoncé une terrible attaque. Le gouverneur démocrate de Minnesota, Tim Walz, parle d'un acte délibéré de violence politique et appelle de ses voeux un discours politique apaisé.
L'Ukraine annonce aujourd'hui avoir reçu 1200 corps supplémentaires de la Russie. Nouvelle étape de l'accord d'échange de prisonniers et de dépouilles entre Kiev et Moscou, accord conclu en Turquie au début du mois. En Inde, le début aujourd'hui des obsèques des victimes du Boeing 787 d'Air India qui s'est écrasé jeudi à Ahmedabad dans le nord-ouest du pays. La pire catastrophe aérienne depuis plus de 10 ans, avec au moins 279 morts. Et cela prend du temps. Seulement 32 personnes ont pu être formellement identifiées ce dimanche à partir de l'ADN de leurs proches. Des familles attendent donc désespérément que les corps de leurs proches leur soient rendus. En France, Nicolas Sarkozy privé de sa Légion d'honneur, la plus haute distinction française. C'est lié à sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes. La décision a été publiée au Journal officiel ce dimanche. Sanction très rare pour un ancien chef d'État. Via son avocat, Nicolas Sarkozy dit prendre acte et rappelle aussi que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore examiner son recours. En France, encore la fin du congrès du Parti socialiste à Nancy dans l'Est, marqué par des divisions, notamment sur la relation du parti avec celui de la France insoumise. Cela reste une profonde ligne de fracture. Le premier secrétaire Olivier Faure et ses opposants en interne ne se sont pas mis d'accord sur un texte de synthèse, constat d'échec donc. Mais Olivier Faure a appelé les socialistes à aller de l'avant.
Alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, j'entends que parfois certains ont la tentation de faire de ce congrès un référendum pour ou contre LFI. Je leur dis simplement que tant qu'ils auront pour unique obsession LFI, ils ne feront que témoigner de la domination psychologique que la gauche radicale exerce sur eux. Un grand parti socialiste ne s'abaisse pas à la polémique permanente avec la gauche. Il prend le leadership face à la droite, face à l'extrême droite. Moi, je veux un grand parti socialiste qui parle à toute la gauche, à tous ses électeurs, sans opérer de tri, parce que ce n'est pas en divisant que l'on fédère un pays.
Voilà, Olivier Faure au Parti Socialiste, propos recueillis par Valérie Gas. Et puis c'est l'ancien international italien, Gennaro Gattuso, qui a été nommé sélectionneur de l'Italie, réputé pour sa rage de vaincre et son tempérament volcanique.